Bonjour et bienvenue sur responsabledaffaires.fr. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Nous allons parler et recevoir aujourd'hui un invité d'excellence qui est Cyril Chambard, spécialisé dans la prise de parole en public. Et vous allez voir, cette personne est très intéressante non seulement par son élocution, mais aussi par la diversité des choses qu'il connaît. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir ce nouvel interview. A tout de suite. Bonjour Cyril.
Eh bien, bonjour Ogier, comment est-ce que ça va?
Bah écoute, ça va, merci, très très bien, merci d'avoir accepté cette invitation pour cette interview, Cyril, parce que j'ai pu voir sur Facebook, moi je t'ai connu par Facebook, j'ai pu voir que tu étais très actif, avec surtout une grande qualité de communication orale. Et donc aujourd'hui, ben j'ai décidé de t'interviewer, mais les gens qui nous écoutent se disent, mais qui est Cyril Chambard et avec qui est-il en train de parler au GIE?
Alors, qui est Cyril Chambard? Mais ça, c'est une bonne question, mais moi, je sais pas. Non, je rigole. Je rigole, je rigole. Alors, moi, je m'appelle Cyril, j'ai 22 ans, et je me considère comme un passionné de la prise de parole en public. Alors, par le passé, et même encore maintenant, j'ai fait du théâtre, et notamment beaucoup d'improvisation. Au lycée, j'ai passé l'option, puis maintenant, suis retourné dans une troupe de théâtre. Puis désormais, en parallèle, pour combler, en fait, mon besoin pour améliorer mes techniques oratoires, je fais partie d'un groupe d'orateurs qui s'appelle Toastmasters, qui est un groupe d'orateurs mondialement connu. C'est une association où on apprend, premièrement, à devenir un meilleur orateur et deuxièmement, un meilleur leader. Donc, j'ai créé une chaîne YouTube il y a environ 9 mois. Et là, je suis beaucoup plus actif sur cette chaîne YouTube et j'aide les gens, voilà, à apprivoiser leur trac et devenir de meilleurs orateurs. En fait, tout simplement, je ne me considère pas du tout comme un expert. Je ne peux pas me considérer comme un expert parce que je suis trop jeune pour ça. Alors, pour cela, eh bien, je me place comme le passionné qui relate à son audience, à toi par exemple, auditeur qui nous écoute, toutes mes aventures, toutes mes expériences que je vis dans le milieu de la prise de parole, au travers de mes conférences, de mes prises de parole, au travers des réunions que j'anime à Toastmaster, au travers de mes pièces de théâtre que je joue et toutes les choses qui peuvent m'arriver dans ma vie. Voilà, au niveau de la prise de parole. Voilà, en gros, qui je suis.
Ben wow, ça fait. Je pense que tu dois le soir quand tu arrives auprès de ton lit, tu dois pas rester très longtemps très très éveillé au moment où tu te couches.
Ah bon, ça c'est sûr, c'est sûr, c'est quand on est passionné, c'est j'ai envie de te dire, on compte pas les heures, quoi. On compte pas les heures et c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial parce que c'est ce qui nous fait, c'est ce qui fait qu'on se lève le matin, tu vois, avec cette petite flamme qui nous dit, ouais, voilà, là j'ai quelque chose à accomplir et en avant, quoi. Tu dois très certainement toi aussi le ressentir, quoi, avec ton projet, quoi.
Oui, moi le matin, même des fois je me dis, allez, il faut rester dormir un peu plus. Et même quel que soit le jour de la semaine, bah non, 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 je n'y arrive pas. Bon, je tiens la forme parce que je dors correctement, mais des fois, je me dis que auparavant je serais resté dans mon lit, mais maintenant, ben, ce n'est plus le cas.
C'est ça, et c'est ce qui arrive quand on est passionné.
Alors juste, moi je voulais en fait juste faire un petit focus là sur un point que tu as annoncé, Toastmaster. Alors j'ai jamais entendu parler de c'est un groupe, une asso, ça se passe comment, juste pour mon information personnelle, parce que je connais pas du
Ouais,
tout.
non, c'est une bonne question, une très bonne question. Toastmaster, qu'est-ce que c'est? Alors Toastmaster, c'est une association, un groupe d'orateurs, ou des gens comme toi, moi, des cadres, chefs d'entreprise, même des personnes qui ne parlent pas spécialement bien français, viennent dans le cadre de cette association pour développer leurs compétences en communication et en leadership. Tout simplement, tu es encadré dans cette association pour t'entraîner à faire soit des discours, soit des évaluations de discours, très simplement. Je ne vais pas te raconter tout le format de Toastmaster, mais en gros, c'est ça. Le concept, c'est apprendre à faire des discours et apprendre à devenir un meilleur leader, très simplement. Voilà.
D'accord. Et ça se passe dans toutes les villes de France ou dans les grandes villes ou comment tu peux accéder?
Dans les grandes villes, t'as au moins un club. À Marseille, là, il y a le premier qui s'est ouvert, mais je me suis inscrit à celui-là, là où j'habite. Et sinon, à Paris, t'en as des dizaines. À Lyon, t'en as deux ou trois, je crois. Ouais, au moins deux. Sur Montpellier, Strasbourg, toutes les grandes villes, t'as au moins une assoce. Au moins une assoce.
Bah écoute, il faudra que je me renseigne parce que ça paraît extrêmement intéressant
Ah oui,
parce qu'il
clairement.
doit y avoir des sacrées personnes que tu peux rencontrer et t'inspirer, je pense aussi, pour trouver des modèles qui vont
Totalement,
t'intéresser.
mais tu as un système de mentorat où en fait tu es obligé, quasiment obligé, de recevoir un mentor qui est plus âgé et plus expérimenté que toi et qui va te suivre tout au long de ton parcours à Toastmaster. Voilà.
Wow, c'est absolument génial. Bon,
Ah, c'est génial.
on s'est déjà égaré
Ouais.
dans l'interview, mais bon, c'est toujours intéressant parce que je pense que ceux qui nous écoutent aussi sont intéressés de trouver ce type de d'assos parce que c'est hyper formateur.
Clairement, clairement, clairement.
Et du coup, je recentre un petit peu notre interview. Alors, toi aujourd'hui, tu n'as pas une vraie entreprise à proprement parler, mais tu as un vrai projet et un vrai business model. Et du coup, plutôt que d'en parler personnellement parce que je n'aurais pas autant de passion que toi tu ne puisses en avoir, quel est ce projet pour que les gens puissent mieux te connaître? Parce qu'ils ont compris que tu avais une capacité de prise de parole, mais du coup, quel est finalement tout ça? Est-ce que tu peux nous expliquer ton projet d'entreprise?
Oui. Alors, mon projet est très simple. Je cherche à créer une audience de passionnés autour de ce sujet qui est la prise de parole en public. Vraiment, c'est un sujet que j'adore, que j'ai toujours eu un attrait pour ce sujet. Et je me suis dit, voilà, j'ai envie au fond de moi de devenir conférencier. J'ai envie au fond de moi de devenir formateur. Et je me suis dit, mais tiens, on va faire des vidéos pour m'entraîner et mettre un premier pas dans ce milieu-là. Et le but, en fait, de cette entreprise, de ce projet entrepreneurial, voilà, c'est créer des vidéos dans lesquelles, eh bien, je donne des petits conseils, sur la prise de parole en public. Voilà, comment gérer son trac, comment impacter son auditoire, comment le captiver, comment faire une bonne introduction, comment structurer son discours. Et aussi des vidéos analyses que j'ai sorties récemment. C'est une série de vidéos que j'appelle les orateurs à succès, où j'analyse les techniques de communication des plus grands orateurs de cette planète. Alors, soit des personnes connues comme des conférenciers, TED ou des grands orateurs tout simplement, ou des personnes que je considère comme ayant des techniques de communication qui sont développées. Voilà, là, par exemple, j'ai analysé le discours, un des derniers discours de Obama, au niveau de son humour, comment avoir de l'humour d'Obama, et une vidéo d'une chanteuse, Isabelle Aubray, où j'analyse ses techniques pour impacter son auditoire. Voilà, que j'ai trouvé absolument saisissant, et pourtant, c'est pas une conférencière, tu vois. Donc le but en fait de cette entreprise, voilà, c'est créer une chaîne YouTube, créer un business en ligne premièrement, pour aider les gens à apprivoiser leur trac et devenir un meilleur orateur. Et ça, on le fait ensemble. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je te dis que je prends la place d'un passionné, c'est qu'on apprend tous ensemble à ce niveau-là. Voilà, en gros, comment dire, le concept de mon business, de mon projet entrepreneurial, comme tu l'as si bien dit.
Enfin, moi je trouve ça hyper intéressant, notamment j'ai pas encore vu cette série de vidéos sur l'analyse des orateurs à succès, mais personnellement, parce que je vais pas me mentir aussi, moi j'aime beaucoup les mots, j'aime beaucoup parler, enfin je pense que on commence à le savoir maintenant, à force d'enregistrer des vidéos, des podcasts, en veux-tu, en voilà. Mais c'est vrai que moi je suis hyper admiratif d'Obama notamment parce que moi je le regarde beaucoup en anglais, je le regarde beaucoup sur ses discours, et je suis toujours impressionné par déjà le charisme
Ah
de l'homme,
oui.
mais
Il est exceptionnel.
ce charisme en fait, finalement, qui est, on va dire, contextuel. C'est-à-dire, à chaque contexte, il a une forme de charisme qui est adaptée au contexte et qui n'est pas en fait, qui n'est pas déplacée par rapport au contexte. Et ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. Récemment, je sais pas si t'as eu l'occasion de voir, bon, on s'égare un petit peu, mais c'est hyper intéressant. Récemment, il a commencé à prendre une prise de parole dans un discours, et tu sais, il met toujours les jeunes derrière lui pour en fait faire une image sur le plan caméra des médias. Et tout d'un coup, il y a un mec qui se met à parler très fort, à venir en fait te dire qu'il a rien fait, etc., etc. Donc là, la sécurité tout de suite commence à venir, et là, il dit à la sécurité, non, non, laissez cet homme. Et là, en fait, il reprend le sur la situation, dans une situation où pourtant le mec est en train de venir polluer un discours, il est en train de polluer un truc devant les médias, etc., tu vois. Et le gars, contextuellement, eh ben, il trouve pas une parade, mais on va dire, il trouve les bons mots, et la bonne façon de faire, et la bonne façon d'être, pour respecter l'homme qui a pris la parole, tout en
Exactement.
fait gardant le pouvoir. Et ça, c'est très difficile.
Exactement, c'est très difficile, mais c'est du travail, c'est des compétences, j'ai envie de te dire. Et on le travaille à Toastmaster, je le travaille aussi, moi aussi, via mes vidéos, dans les conseils que je donne. Et ça, c'est vrai, ce charisme, c'est très atypique. Il y a très peu de personnes qui arrivent à le faire, mais c'est pas infaisable, je pense clairement. Mais c'est tout une technique, en fait, c'est même plus de la communication, c'est du leadership. C'est Obama, pour moi, c'est un des plus grands leaders et un des plus grands communicants qui existent au niveau politique, pour moi. Et ce qu'il a fait, et je me souviens là de ce discours-là, où il se retourne, et oui, c'est vrai que les bodyguards viennent essayer de mettre à terre pour le faire dégager, et il lui dit, eh non, arrêtez. Je me souviens de ce passage-là. Et ça, tu vois, c'est le fait de savoir garder son sang-froid et de répondre au contexte de la manière la plus juste qui soit. Voilà, je suis Obama, c'est ça, c'est ce qu'il se dit, c'est ça, je suis Obama, et moi, mon rôle, c'est pas de laisser faire les autres, non, c'est moi qui garde la main sur la situation. Je montre que je suis un leader, je garde la main sur la situation. Et c'est ça qui est très fort. Et ça, lorsqu'on arrive à faire ça, lorsque l'on est en entreprise, lorsque l'on est dans la vie de tous les jours, eh bien, c'est très très fort parce que les gens, eh bien, vont, je dirais pas être impressionnés, mais ça va créer une aura autour de nous qui va montrer qu'on a de la poigne, que l'on est présent. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est quelque chose de compliqué, mais qui n'est pas inatteignable.
Bon, on s'est encore éloigné de tout ça, de notre
Ouais.
interview. Mais du coup, bah, c'est intéressant parce que du coup, ça permet aussi de pouvoir bah, donner des exemples qui illustrent tout à fait en fait ce dont on parle. Et moi, en fait, la question que je voulais te poser maintenant, parce que je me dis, mais ok, Cyril, il s'est levé un jour et puis il s'est dit, bon bah, moi, allez, je vais aimer la prise de parole. C'est-à-dire, moi, pour toi, c'est pourquoi en fait, à un moment donné, tu t'es dit, bah, c'est ça que je veux partager avec les autres. Et enfin, qu'est-ce que tu te dis finalement?
Ouais, bah ouais, non, mais en fait, c'est ça, je me suis levé un beau matin et je me suis dit, oh, bah tiens, si je devenais conférencier, ça peut être cool, ça peut être très sympa. Non, plus sérieusement, je pense que si on est dans ce milieu-là, il faut avoir un attrait pour ce milieu-là, il faut aimer parler, il faut aimer s'exprimer. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié et mon père me l'a reconfirmé. Apparemment, quand j'étais tout petit, je jouais déjà des petites scénettes dans ma chambre avec mes jouets. Apparemment, pas que je sois schizophrène ou complètement fou, hein, non. C'est juste que je récitais les pièces de théâtre qui se faisaient. Et il m'avait dit, Cyril, mais pourquoi est-ce que tu ferais pas du théâtre? Et là, moi, je le regarde, plein de scénettes, il me dérangeait en plus, tu vois. Et je le regarde, c'est du haut de mes 3 ans et demi. Tu vois, je le regarde, non, c'est nul le théâtre, c'est pour les filles. Et j'ai jamais fait de théâtre en fait à ce moment-là, alors que mon père avait décelé apparemment ce potentiel. J'aurais pas de talent, je me considère pas comme talentueux, mais cet attrait pour ce milieu-là. Et en fait, je suis retourné. Je suis retourné après en grandissant. Je me suis un petit peu intériorisé. Je me suis un petit peu introverti. J'étais un peu plus introverti. J'avais un peu plus de mal pour exprimer ce que je ressentais, mes émotions. Je viens pas d'une famille où on parle beaucoup de nos émotions, etc. On rigole. Je dis pas que je suis malheureux, hein, mais on parle pas trop de nos émotions, etc. Et j'avais du mal à exprimer tout ça. J'avais beaucoup de choses à exprimer et je savais pas comment le faire. Et j'étais énormément bloqué dans mon mental. Et puis, par un concours de circonstances, au lycée, je suis tombé par hasard, enfin, par hasard, en voulant draguer une fille, et je suis tombé par hasard sur un cours de théâtre où elle allait et j'ai fait une impro et ça m'a de suite plu. Et j'ai trouvé dans le théâtre une manière de m'exprimer. Un moyen d'expression absolument phénoménal qui me permettait de me défouler, de me lâcher. Et au fur et à mesure, je me suis amélioré, j'ai carrément développé une passion pour ce sujet-là. Voilà. Donc théâtre, puis après Toastmasters, discours. Voilà, qui me correspondait mieux parce que, enfin, qui me correspondait mieux. Qui était complémentaire parce que là, on sort du jeu d'acteur, on sort du jeu où on joue un personnage, donc qui n'est pas soi, pour retomber en fait dans quelque chose de plus authentique, qui est la prise de parole, comme on le fait tous les jours, même là en ce moment, durant cette interview. Avec voilà des discours où on parle de soi, on parle de ses histoires et de son vécu. Voilà.
Finalement jouer la meilleure personne, la meilleure version de soi-même, quoi.
Ouais, clairement, clairement,
Et ça,
clairement.
c'est extrêmement intéressant. Et là, en fait, aussi, j'ai une pensée quand je t'écoutais parler, c'est le fait que, je sais pas si tu as déjà entendu parler, c'est la première fois que je parlais de ce principe, j'espère que je vais réussir à me faire comprendre correctement.
Ouais.
Quand on écrit un texte, quand on écrit quelque chose, souvent on n'écrit pas les choses de façon tiède, c'est-à-dire qu'on est très précis quand on écrit. Et là, en fait, la parole, quand on se met à parler, on comprend, on sent en fait finalement les interférences dans la conversation. Et là, justement, c'est hyper intéressant la prise de parole, c'est de réussir à venir mettre des mots sur des pensées, sur des choses, sur son passé, sur son futur, sur sa personnalité ou sur des émotions,
Bien
sans pour
sûr.
autant finalement venir être indécis. Tu vois, quand tu écris un texte, finalement, tu t'es pas indécis. T'es en forme, t'es pas en forme. Toi, tu écris la vérité de l'instant présent. Quand tu parles, tu peux dire, je suis en forme, mais je pense à ça. Enfin, tu peux toujours temporiser, tu vois. Mais dans l'écriture, ceci ne se sent pas.
Bien sûr. Et puis aussi, la grande différence qu'il y a entre l'écriture et la prise de parole, c'est que lorsque tu écris, la grande force de l'écrivain, c'est qu'au bout de son stylo, eh bien, il a une gomme. Il peut effacer ce qu'il dit. Tu vois, ça se rattrape, ça s'efface, ça se corrige. Alors que lorsque tu prends la parole en public, bah, t'as pas de gomme. Tu peux pas revenir en arrière. Quand t'as dit quelque chose, bah, c'est dit. Tu vois, quand tu fais une erreur, c'est dit, bah, faut continuer. Et c'est pour ça que j'aime bien dire que la prise de parole, eh bien, ça s'attrape. C'est un sentiment qui doit s'attraper et qui doit mûrir tout au long de la conversation. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas quelque chose que tu peux rattraper, que tu peux corriger, contrairement à l'écrit. C'est très bien l'écrit, c'est une forme d'expression qui est fabuleuse. C'est incroyable. Il y a des auteurs qui sont de génies que j'adore. Seulement, au bout d'un moment, pour moi, eh bien, il faut passer à l'oral. Parce que les plus beaux messages, pour moi, ils passent lorsqu'on les dit et pas lorsqu'on les écrit. Et je trouve que ça a beaucoup plus d'impact lorsqu'on parle que lorsqu'on écrit. Après, c'est qu'un point de vue, hein, c'est très personnel, il y a plein de personnes qui parleront.
J'aime beaucoup ton analogie avec la gomme pour l'écriture. Un écrivain, il a cette gomme dans la main gauche, et l'orateur, il a pas de gomme dans les mains. Parce que hier, j'ai un ami qui aussi un super super blog et une super chaîne YouTube qui s'appelle Écrire Juste. Justement, son concept, c'est sur
Ouais,
l'écriture.
il est top, il est top. Comment il s'appelle déjà?
Wesley Joachim,
Wesley. Ouais, Joachim,
exactement.
il est super sympa.
Et du coup, en fait, on se fréquente beaucoup, hein, on se connaît depuis quelques années.
D'accord,
Et
d'accord.
là, en ce moment, le gros sujet, c'est, il me disait, mais non, mais qu'est-ce que je vais dire sur un live? Imagine que je me connecte, que je fais un live Facebook, et imagine que plein de personnes finalement ne regardent pas ou que je fais une faute en commençant mon live, etc. Et je lui disais, parce que moi, je suis très comme ça, et des fois même, c'est ce que je lui racontais, les petites anecdotes que les gens ne voyaient pas, bah, à travers mes contenus, etc. Et je pense que c'est pareil pour toi. Mais c'est que des fois, on lance une vidéo, on la fait de. Allez, on la commence à 0 minutes, on la finit à 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Et à la fin, on se dit, waouh, c'est bien. On la regarde et puis on se dit, waouh, je me vois plein de défauts, je me vois pas correctement, j'ai pas expliqué ça comme je le voulais. Et des fois, on se dit, bah, je vais réenregistrer. Et maintenant, moi, à force du temps, je me suis vraiment encore plus, j'avais lu pas mal de choses sur le développement personnel là-dessus, sur fait est mieux que parfait. Et maintenant, je me rends compte que, et c'est ce que je lui donnais comme conseil à Wesley, je lui dis, mais finalement, on s'en fiche que tu fasses une erreur ou que y ait personne qui te regarde sur le premier live Facebook que tu fais. L'essentiel, c'est que tu te lances et que entre le premier live que tu auras fait et le centième, que les gens qui arriveront, ils verront que le centième, ils vont pas regarder les 100 lives jusque le premier que tu as fait. Ils vont regarder le dernier qui est dans ton fil d'actualité, donc la meilleure version de toi-même parce que la version la plus évoluée. Et c'est marrant parce que on n'a pas de gomme quand on parle, mais fait mieux que parfait et on avancera quand même beaucoup plus que si on n'avait pas parlé.
Je suis totalement d'accord avec toi et ça résonne avec quelque chose avec une allocution que j'ai faite hier soir à Toastmaster. J'ai animé toute la soirée Toastmaster hier soir de mon club et j'ai fait une petite allocution à la fin où je devais remettre les rubans. On décerne des prix pour les meilleurs orateurs de la soirée. Et j'ai fait une petite allocution sur le fait que certes c'est bien d'avoir ce prix, c'est la cerise sur le gâteau comme j'appelle ça, mais et je parle d'expérience, c'est comment dire, c'est pas parce qu'on ne gagne pas qu'il faut être dégoûté en fait. Et j'ai tout simplement rebondi là-dessus sur le fait que il faut savoir s'estimer pour le travail que l'on vient de faire. Parce que prendre la parole en public, que ça soit devant un public réel ou durant un Facebook Live, eh bien c'est la chose la plus difficile que quelqu'un puisse faire. Il y a des millions de personnes qui seraient incapables de faire ça. Incapable. On peut te féliciter, vraiment te féliciter et t'applaudir pour t'être levé, avoir dit bonjour, merci, au revoir. On peut te féliciter pour ça parce que des millions de personnes seraient incapables de le faire. Parce que la prise de parole, c'est l'exercice le plus dur, l'un des exercices les plus durs à faire et à mettre en pratique. Et c'est pour ça que lorsque l'on le fait, il faut toujours s'estimer, toujours estimer le travail que l'on vient de faire et se dire que oui, je l'ai fait. Et même si c'était pas parfait, eh bien moi je l'ai fait. Parce que je l'ai fait et contrairement à des millions de personnes qui l'auraient pas fait, Mais moi, je l'ai fait. Il faut s'estimer pour ça, même si ce n'était pas parfait.
Wow. C'est tout à l'heure, tu sais que tu vas passer sur les 3 conseils que tu devras donner. Là, finalement, tu nous donnes des milliers de conseils. Là, je pense qu'il y en a qui sont en train d'écrire des livres.
Je suis avare en conseils, c'est faut m'arrêter, hein, sinon je parle trop, hein, je suis
Non, non, mais
parti.
c'est hyper intéressant. C'est tout l'intérêt des interviews, finalement, c'est qu'un échange et puis bah et puis y a l'auditeur en fait très sérieux qui nous écoute et qui du coup s'inspire et trouve des idées peut-être ou même des confirmations dans les pensées qu'il peut avoir au fond de lui.
Oui, mais clairement, clairement. Clairement, clairement, la peur de parler en public, c'est quelque chose que j'essaie de combattre et j'essaie vraiment d'aider les gens à ce niveau-là, quoi. Parce que tout le monde a le droit de prendre la parole en public. Tout le monde mérite de faire passer son message.
Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur un point. La majorité des gens que je rencontre, ils ont et ils se mettent le trac complet pour prendre une parole en public. J'imagine que c'est finalement ces personnes-là sur lesquelles tu essaies d'apporter ton soutien au maximum.
Ah oui, mais clairement, clairement. Mais qui ne ressent pas du trac? Tu vois ce que je veux dire? Après, il y a différentes personnes qui en ressentent beaucoup plus. Mais oui, c'est sûr que je cible sur ce genre de personnes. Parce que le trac, comment dire, c'est pas une question d'avoir du trac, tu vois. Parce que le trac, personne ne le sait, ou très peu de personnes le sait. Mais le trac, ça peut être positif, et à la base, c'est positif. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est toute une question de savoir l'utiliser. De savoir l'utiliser non pas comme un frein, mais comme un ressort qui va nous permettre de rebondir et sortir de notre zone de confort et faire une présentation qui est beaucoup plus impactante. Parce que le track, lorsqu'il est bien utilisé, c'est un outil puissant, extrêmement puissant. Bon, ça, je pourrais pas en parler, je pourrais pas donner tout ce que je sais sur le track, sinon on va en avoir pendant des heures, mais clairement, le track, c'est une question de le comprendre et de savoir l'utiliser. Voilà.
Et c'est vrai que ça me permet aussi de juste d'en parler un petit peu parce que souvent aussi on me pose la question quand je fais les lives Facebook, on me dit mais t'as jamais le track, etc. Et les premiers lives, effectivement, je me disais mais est-ce que les gens vont me regarder? Est-ce qu'ils vont pas m'insulter? Est-ce que après ce live, quand je vais sortir de chez moi, on va pas me essayer de m'écraser pour se dire il faut que tu
Ouais, bah
dégages?
ouais, clairement.
Je me posais la question et finalement en fait ce que je me suis encore plus rendu compte et ça m'a rappelé en fait un livre que j'avais lu, bon encore on s'égare hein, comme toujours, ça m'a rappelé un livre que j'avais lu d'Anthony Robbins sur Pouvoir illimité,
Ouais, pouvoir limiter, ouais, très connu.
dans lequel il parlait vraiment des représentations internes que tu pouvais avoir, et finalement le trac c'est la représentation que tu vas avoir de toi
Oui.
face à un public. Qu'est-ce que
Oui,
tu
totalement.
imagines de tout ça en fait? C'est ça hein.
Totalement. C'est totalement égoïste, le trac, en fait. C'est pas la peur de, enfin, on n'a pas peur de ce que vont penser les autres, de leur penser à eux. On va avoir de peur de nos pensées, de ce que nous, on va penser d'eux. Tu vois ce que je veux dire? On va avoir peur de ce qu'ils vont penser de nous. Voilà, c'est ça. Tu vois? Et on se fout une pression monstre parce qu'on a peur de mal faire, parce qu'on a peur du regard des autres, on a peur de l'échec, en fait, tout simplement, on a peur de l'inconnu. Et ça, c'est totalement con, excuse-moi l'expression, mais toi, quand tu parais stressé, quand tu penses que tu as pas fait quelque chose de bien lors de ta présentation, eh bien, je t'assure que ton public, il s'en apercevra même pas. Tu vois? Parce que toi, tout ce que tu vas penser, tu vas le sentir toi, mais je t'assure que ton public va pas le sentir. Moi, j'ai fait une présentation où ça a fait un bide, mais monstrueux, monstrueux. C'était pour un discours humoristique. Et enfin, c'était pas drôle, quoi. Clairement, c'était un sujet qui était très compliqué. Je l'avoue, enfin, j'ai dit clairement à l'animateur de soirée, devant tout le monde, là, ouais, j'aurais dû changer de sujet parce que c'était merdique. Et j'ai fait une vidéo dessus où je me suis un peu bâché, je me suis un peu clashé dessus. Et un ami à moi, à Toastmaster, quelques semaines après, est revenu me voir. Il m'a dit, ouais, mais c'est bizarre que t'aies dit ça, parce que nous, en tant que public, on n'a pas du tout ressenti ça. Oui, c'était pas terrible, mais c'était pas autant pas terrible que toi tu le pensais. Tu vois ce que je veux dire? En fait, les gens s'en foutent, ils s'en rendent pas compte. En fait, on se met une pression monstre, mais les gens ne s'en rendent même pas compte.
C'est vrai aussi que des fois c'est il y a la représentation qu'on a de nous-mêmes aussi dans le fait que certains d'entre nous sommes très très exigeants avec l'image qu'on souhaite donner aux autres.
Mais clairement.
Et clairement, tu avais envie de donner une très bonne image de toi, ou en tout cas, tu as envie de laisser une empreinte beaucoup plus forte que celle que tu n'as laissée à travers le sujet que tu as traité. Et finalement, tu étais hyper déçu parce que tu t'es dit c'est pas ça que je voulais laisser, et t'es frustré parce que tu dis j'ai pas donné mon vrai potentiel, j'ai pas donné ce que j'avais vraiment en moi, quoi.
Exactement. C'est pour ça que je dis qu'il faut toujours s'estimer pour son travail. Avoir des attentes, enfin avoir des préférences et pas des attentes. Tu vois? S'estimer et avoir des préférences. C'est ça les deux meilleures clés pour pas être déçu. Parce que si tu t'estimes pour le travail que tu viens de faire, parce que je te jure, quand tu prends la parole en public, c'est énorme. Il y a des personnes qui ne seraient incapables de le faire. Déjà, quand tu sois arrivé à te lever, à parler devant un public, à expliquer des choses, c'est exceptionnel. Et ensuite, si tu dis, ben voilà, ben au pire, ça rate, au mieux, j'apprends quelque chose. Mais là, tu commences à rentrer dans une attitude qui est beaucoup plus intéressante et dans une attitude d'apprentissage. Et pas d'auto-bashing et d'auto-critique. Et ça, c'est mauvais, ça.
Ça me rappelle aussi d'ailleurs ça sera quelque chose qui va te plaire, je pense que tu connais. C'est une équation qui a été posée par je sais plus d'où ça vient, mais c'est que la performance, c'est égal au potentiel moins les interférences.
Ouais, qui c'est qui dit ça?
Alors
Qui
je sais
c'est?
pas qui dit ça, mais en tout cas c'est absolument génial parce que bah si t'as aucune interférence, ton potentiel est égal à ta performance, quoi.
Ah ouais,
Donc
mais clairement. Clairement, totalement.
et le track,
Totalement.
c'est une interférence.
Exactement. Exactement.
Alors du coup, pour recentrer un peu notre sujet, comme je suis très curieux et que bah ça passionne aussi les entrepreneurs malins qui nous écoutent, qui se disent voilà, aujourd'hui je vois la vie de Cyril, je me dis que c'est possible de pouvoir avoir une vie avec beaucoup d'activités, mais du coup comment on peut s'organiser? Et donc la question que je pose souvent, c'est quelle est ta journée type? Et je te la pose aussi aujourd'hui, quelle est ta journée type en semaine, par exemple, quand tu vas aller à Toastmaster, quand tu vas aller au théâtre, etc. Comment tu t'organises? Comment sont tes journées? À quelle heure tu te lèves? À quelle heure tu te couches le soir? Enfin voilà, en gros, une journée type rapidement, quoi.
D'accord, pas un exemple, c'est vrai, en termes de lifestyle. Pour ça que j'en parlerai pas trop. Je suis pas le genre de mec à faire le miracle morning, même si j'ai déjà testé, hein, à me lever tôt. Voilà, je mange bien, je fais du sport pour justement me défouler et apprivoiser mon trac. Je dors mes 8 heures de sommeil. Bref. Mais on va plus parler d'une journée ou plutôt d'une session, ce que j'appelle session, de préparation à un discours ou une prise de parole en public. Alors généralement, moi, je m'y prends assez à l'avance, entre une semaine et 4 jours minimum, et je commence toujours, voilà, à me préparer, déjà mentalement, visualisation, mais visualiser un petit peu tous les jours en train de réussir à cette présentation, c'est très important de se visualiser, parce que si on peut visualiser ce qu'on fait, on peut très bien le réaliser. Ça, tu connais très certainement. Ensuite, voilà, je prépare mes idées, je me prépare, voilà, à l'écrit, je commence à poser mes idées. Clairement, c'est beaucoup un travail de réflexion, tu vois, à la base, la prise de parole en public, c'est beaucoup de réflexion. On pense que les meilleurs orateurs, ben, c'est les gens qui se préparent pas, mais en fait, non, pas du tout. Toute improvisation est préparée en prise de parole, ou du moins, il y a eu un apprentissage par derrière. Et voilà, donc, beaucoup de réflexion, beaucoup de travail d'analyse, de regarder des vidéos, s'inspirer d'orateurs, travail d'écriture, d'analyse de discours et d'écriture pour mes propres discours. Puis ensuite, préparation. Préparation, répétition. Analyse de mes fiches, et ensuite, ben voilà, on va à Toastmaster et on pratique, et on passe un bon moment. Voilà, j'ai pas vraiment une journée type, enfin, je suis pas trop dans ce milieu-là, même si je devrais créer et forcer un peu plus sur les habitudes. Je suis en train de recréer des habitudes, notamment au niveau de la diction, au niveau de la respiration, et au niveau de la voix, et au niveau aussi de comment on s'entraîne sur le mental, mais on en parlera après.
D'accord.
Voilà.
Je me permets de m'arrêter juste un instant sur le fait que tu prépares tes discours. Il y a différentes écoles. Moi personnellement, je sais que je suis quelqu'un qui, bon, je pense que ça va te plaire parce que je suis très impro. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est quand je prends une prise de parole, bien avant la prise de parole, en fait, j'ai des dialogues internes, j'ai des réflexions, j'ai des pensées, j'ai des mots sur ce que j'ai envie de dire. J'ai une analyse de mon audience sur la façon dont ils vont appréhender ma prise de parole, sur leurs attendus, sur ce que je dois dire. Et finalement, en fait, là-dedans, j'avoue que moi, je suis très live, c'est-à-dire que des fois, je vais prendre des notes, mais je vais même pas les regarder, même pas les utiliser, ou quasiment, des fois, je vais même pas faire de notes du tout. Est-ce que tu penses qu'il y a différents, est-ce que, enfin, moi, je suis pas expert, parce que je me connais que moi personnellement entre guillemets sur le sujet, parce que j'ai jamais trop eu la chance de pouvoir interagir avec d'autres personnes. Mais du coup, est-ce qu'il y a différents types de profils sur les discours, ou est-ce qu'il faut, parce que par exemple, quand on regarde Obama, par exemple, il lit très peu finalement. C'est quelqu'un qui est très très impro, enfin, en tout cas, c'est le sentiment qu'on a. Quels sont les conseils que tu pourrais donner là-dessus, même si après, je te demanderai encore 3 conseils. Là-dessus, est-ce que tu as des techniques, des observations? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça?
Pour moi, clairement, une prise de parole, ça se prépare. Moi, avant de venir, je me suis préparé. J'ai fait des fiches. J'ai fait une petite fiche avec les points sur lesquels je devais aborder. les points essentiels. Puis après, j'écris mes fiches et je mets que les points essentiels que je dois citer dans mes préparations, tu vois. En fait, faut pas chercher à écrire son discours, tu vois. Quand j'y préparais, c'est déjà, comme tu dis, mentaliser ce qu'on va dire, verbaliser et mentaliser ce qu'on va dire dans son auditoire, le porter sur papier, l'écrire, et structurer, agencer les idées, écrémer les idées et ne prendre que l'essentiel. Et je pense que ça, c'est important de le faire, parce que ton public te remerciera toujours quand tu fais une présentation qui est structurée et qui va droit au but et directement à l'essentiel. Tu vois? Donc c'est pour ça qu'il faut, selon moi, et je pense que n'importe quel type de conférence te le dira, il y a toujours un travail de préparation en amont. Et même Marc-André, même s'il connaît sa conférence par cœur, il va quand même la répéter un petit peu. Mais lui, après, au bout, ça fait des années, tu vois, qui est Marc-André Morel, mon mentor, ça fait des années qu'il fait des conférences, il a fait plus de 2000 conférences, il les connaît par cœur, ces conférences. Il peut se permettre de parler avec passion, il peut se permettre de parler comme si c'était en impro et de rebondir. Mais ça, tu vois, comme Obama, hein, exactement comme Obama, mais ça a été possible uniquement parce qu'il a énormément travaillé par avant.
D'accord.
Pour moi, l'improvisation. Oui, vas-y, je t'écoute. Hein.
Excuse-moi. En fait, ce que je mémorise, c'est que faut faire des fiches. Et en fait, il faut garder une phrase, on va pas dire choc, mais une phrase clé de ce que tu as en tête, pour que ça te permette de pouvoir toi mémoriser un discours que tu avais au fond de toi. C'est-à-dire, en gros, tu cries sur une phrase, introduction, la phrase que tu as en tête, la plus forte, et qui va allier tes idées, en fait. C'est ça, en gros, l'idée
Ouais,
principale?
en gros, un discours, ça se prépare comme ça. C'est une accroche choc puissante, une introduction travaillée qui est apprise par cœur avec l'accroche qui, elle, est apprise par cœur parce que c'est les 10 premières secondes, la première minute qui est primordiale dans une présentation. Puis après, tu prépares ton discours, tu mets tes 3, 4, 5 idées générales qui vont donner les grands axes, les grandes parties de ta présentation. Et qui vont te donner un fil conducteur dans tes idées. Éviter de te perdre, en fait. Tu vois? Mais tu dois pas écrire par cœur. Moi, j'en vois plein. Toastmasters, ils écrivent au mot près leur présentation, ils la récitent. Et ça, c'est le meilleur moyen de se planter. Non. Tu dois leur répéter, tu dois la répéter, la répéter, la répéter, ta présentation, mais en ne gardant que les éléments clés. Tu vois?
Bien
Et
sûr.
que ça devienne une deuxième peau pour toi. Tu vois? Parce que ta présentation, elle ne doit jamais être chaque fois la même, parce que tu vas parler avec ton cœur et pas avec ta tête. Et ça, la grande différence entre une personne qui va faire des fiches très simples et un discours totalement écrit. L'un, il va parler avec sa tête, il va réfléchir et il va potentiellement avoir des blancs, alors que l'autre, il a des grands axes, il va parler avec des choses qu'il connaît, avec des choses qu'il sait, qui le passionnent. C'est même plus de la connaissance, là, c'est intériorisé. Tu vois, ce que tu le sais, tu en parles avec passion et il peut très facilement improviser dessus. S'il a un blanc, eh ben, on s'en fout, ce sera le seul à le savoir qu'il a un blanc et il pourra rebondir sur autre chose. Il est beaucoup plus flexible, la personne qui prépare de cette manière-là, avec seulement des grands axes, sa présentation. Tu vois ce que je veux dire? Ça te fait gagner en flexibilité.
Ouais, complètement. Waouh, je pense que peut-être qu'on fera un deuxième interview parce que sinon on va être hyper long et nos auditeurs auront du mal à pouvoir tout écouter facilement.
Ouais, c'est sûr.
Du coup, la dernière question, celle que tout le monde attend certainement, c'est souvent la question que les gens me disent waouh. Les trois conseils que tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent sur la prise de parole ou sur ton expertise finalement?
Ok, alors je vais essayer d'être concis, le plus concis possible. Mais tu sais, moi, je te racontais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir et me disent, ouais, Cyril, j'ai envie de devenir un grand orateur, j'ai envie de faire comme Obama, comme Steve Jobs, ils sont trop forts, j'ai envie d'apprendre à avoir un bon body language, faire de beaux PowerPoint, avoir une belle voix. Et là, moi, je les regarde, ils me disent, ouais, mais comment on fait? Apprends-moi. Moi, je les regarde et je leur dis, mais mon coco, c'est bien boulot, c'est bien, bien beau de vouloir faire tout ça, mais déjà, est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu veux prendre la parole en public? Et là, généralement, il y a un bug. Ils ne savent pas quoi répondre. Parce qu'ils veulent tous apprendre à avoir une belle voix. Ils vont voir, il y a beaucoup de coachs en voix, j'ai rien contre eux, ils font un travail formidable, mais il y a beaucoup de personnes qui vont les voir comme si c'était les messies qui vont leur apprendre à parler en public. Non, avoir une belle voix, ça ne t'apprend pas à parler en public. Ça t'apprend à avoir une voix plus posée, à être plus confiant. En fait, moi, la prise de parole en public, et c'est un peu le problème que je mets en exergue avec cet exemple, c'est que pour moi, la prise de parole en public, c'est comme un gâteau. En fait, les gens, sur le gâteau, ils essayent de mettre la cerise avant d'avoir mis les ingrédients. Tu vois, dans un gâteau, tu mets la farine, le lait, le beurre, tu bats tout ça avec passion, tu fais cuire ton gâteau et ensuite, tu mets la cerise sur le gâteau. En fait, tu travailles ton pourquoi, c'est-à-dire tes ingrédients, battus avec passion et amour. Et ensuite, tu rajoutes la cerise sur le gâteau, qui est la voix, qui est la diction, qui est le body language et le eye contact, et tout le blabla qui va avec le non-verbal et compagnie. Donc voilà, c'est travailler son pourquoi, son message. Qu'est-ce qu'on veut dire lorsque l'on monte sur scène? Pourquoi est-ce qu'on veut monter sur scène? Pourquoi est-ce qu'on veut parler en public? Et ensuite, le comment viendra tout seul. Il viendra tout seul. Et ensuite, je rebondirai tout simplement, en fait, sur ce deuxième petit conseil, c'est que quand tu trouves ton pourquoi, généralement, ça va être, enfin, faut pas, je conseille pas généralement de partir sur un sujet qu'on connaît pas ou qui ne passionne pas. C'est pour ça que je dis qu'il faut toujours parler avec passion. Parce que lorsqu'on parle avec passion, lorsqu'on a la flamme, tu vois, j'ai fait une vidéo analyse de Isabelle Aubray, c'est pas une oratrice, mais elle parle avec passion. Et on le voit dans ses yeux. On voit qu'elle est passionnée, qu'elle est animée totalement par ce qu'elle dit. Et qu'elle vit ce qu'elle est en train de raconter. Eh bien là, on devient impactant. Là, on devient captivant. Il n'y a même pas besoin de devenir un orateur. Il suffit juste de parler avec passion. D'un sujet qui nous plaît, que l'on adore parler, que lorsqu'on en parle, eh bien, on ne voit même pas le temps passer. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'on ne parle plus avec sa tête. On ne réfléchit pas à ce qu'on va dire à la phrase suivante. En fait, on ne parle plus avec sa tête, mais on parle avec son cœur. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant, la prise de parole en public. On s'extériorise totalement. On sort d'un script et on parle avec ce qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes, avec nos tripes. Tu vois? Donc c'est ça, c'est là que ça devient intéressant, c'est trouver un sujet personnel, comme un sujet qu'on a vécu à l'école, ou quelque chose de privé, une expérience, un voyage. Parce que lorsqu'on va parler de ça, on l'a vécu. Et vu qu'on l'a vécu, eh bien on va pouvoir retranscrire beaucoup plus facilement les émotions de notre public. Il va les ressentir notre public. Parce que on sera authentique. Et ensuite, on parlait tout à l'heure de préparation. Moi, je dis clairement, il n'y a pas, quand on parle de tout ça avec passion, on a généralement, on part un peu en live. Donc, faut se préparer. Il faut structurer. Il faut écrémer les idées, notamment lorsque l'on parle devant un public, eh bien, comme des banquiers ou tout simplement lorsque l'on refait une présentation sur quelque chose qui nous passionne. Eh bien, il faut structurer, il faut écrémer ses idées et aller à l'essentiel. Ce qu'on a dit tout à l'heure, donc je n'étirerai pas trop là-dessus et je te donnerai plutôt un conseil, un troisième et dernier conseil beaucoup plus technique, parce qu'on a parlé du pourquoi, on a parlé du fait qu'il fallait parler avec passion. Et tout simplement, c'est de faire des silences avec un bon eye contact. Il y a trop peu de personnes qui ne font pas de pause, qui ont peur de s'arrêter de parler parce qu'ils ont l'impression de faire des blancs. Seulement, tu vois, là, je viens de faire un silence. Est-ce que tu as l'impression que ça a créé un blanc? Au contraire, ça crée de l'intensité.
C'est extrêmement intéressant parce que c'est la première chose que tu apprends en école de communication.
Ah, clairement.
Ceux qui ont eu la chance et qui nous écoutent de faire une école de communication, tu apprends en fait à dire la phrase. Moi personnellement, je me rappelle parce que c'était extraordinaire. Tu apprends en fait à prononcer la phrase « Je peux m'arrêter de parler quand je veux ». Donc ça, c'est la phrase quand tu la parles sans t'arrêter. Et après, tu te mets et tu t'amuses à l'apprendre en disant « Je peux m'arrêter de parler quand je veux.
Oh.
Je peux m'arrêter de parler quand je veux. Et tu peux t'arrêter finalement de parler quand tu veux. C'est hyper drôle
Exactement.
ce.
Exactement. C'est un très bon exercice que je note, ouais. Oh, on peut le faire comme ça aussi. Je peux m'arrêter de parler quand je veux. Et là, boum, tu crées de l'intensité. Tu crées quelque chose de puissant dans ton discours. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut rajouter l'eye contact. Parce que c'est bien de vouloir faire des silences. Mais si tu regardes pas ton public, mon cher auditeur, ben, ça sert à rien. Parce que on dit que les yeux, c'est la fenêtre de l'âme, c'est la porte de l'âme. Eh ben, c'est pas que des conneries, hein. Parce que les yeux, au niveau neuronal, c'est le premier organe, en quelque sorte, qui est connecté à ton cerveau. Et lorsque tu regardes quelqu'un dans les yeux, eh bien, c'est le premier passage où se crée quelque chose, enfin, où se crée une connexion émotionnelle avec ton public. Donc, si tu les regardes dans les yeux, au moment où tu fais un bon silence, là, je t'assure que tu vas les captiver. Ils vont te regarder, ils vont baver devant toi. Ils vont faire, ah, c'est trop fort ce qu'il nous fait, là, tu vois. Donc, silence, pause, eye contact. Parlez doucement, allongez les phrases et ne pas hésiter à prendre son temps. Parce que lorsqu'on prend son temps, ça crée de l'intensité, comme j'ai dit tout à l'heure, mais aussi ça permet à ton public, à ton auditoire, cher auditeur, et toi aussi, Roger, de te comprendre et d'assimiler beaucoup plus facilement ce que tu es en train de lui dire. Voilà, tout simplement. C'est sur quoi je voulais conclure.
Alors juste pour ceux qui nous écoutent et qui ont sorti leur cahier de notes avec juste un peu de retard sur les conseils, je les rappelle. Donc le 1, c'est pourquoi tu veux prendre la parole en public, quel est ton message, avec cette analogie magnifique que, eh bien, finalement, on met la cerise sur le gâteau quand le gâteau, on a mis ses ingrédients dans le gâteau quand il est cuit et quand on a juste fait le décor finalement. Donc le décor, c'est on va dire partie externe de tout ça. Deuxième conseil, c'est parler avec passion, de la flamme, d'un sujet qui nous plaît. Et quand on se met à parler d'un sujet qui nous plaît, le temps, on va pas le temps défiler. Et surtout, on parle avec son cœur. Et ça, je pense que toutes les personnes entre nous savent de quoi on peut parler pour parler avec le cœur. Et trois, ne pas avoir peur de faire des silences avec un bon light contact, bon la formule anglaise, avec un petit, on regarde dans les yeux à personne, en tout cas on se tourne vers son auditoire pour pouvoir finalement prendre le temps d'inspirer, de réfléchir et de laisser les autres aussi réfléchir sur ce qu'on est en train de dire.
C'est plutôt bien résumé. J'aime beaucoup.
En tout cas, merci beaucoup Cyril pour le temps que tu nous as accordé juste avant qu'on se quitte. Pour les gens qui ont eu la patience de rester jusqu'à maintenant, comment on peut et ils peuvent te contacter actuellement pour apprendre à te découvrir?
Alors, j'ai une chaîne YouTube, comme j'ai dit précédemment, qui est, eh bien, à mon nom. Hein, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Cyril Chambard. Voilà, je traite de la prise de parole en public, comment apprivoiser son trac, avec des vidéos explicatives et des vidéos analyses des techniques des plus grands orateurs. J'ai une page Facebook aussi, un compte professionnel, Cyril Chambard. Faut bien faire attention parce qu'il y a mon compte principal, mon compte privé,
Perso.
donc bien ouais, mon compte perso, et bien rajouter mon compte pro, où je publie énormément de contenu, un peu plus que, enfin, je suis très actif sur Facebook. Et je publie beaucoup plus de choses qu'on peut voir normalement, voilà, des vidéos, des liens et plein de choses sur la prise de parole en public. Aussi sur Snapchat, Cyril Cham, CyrilCham, Cham, pardon. Je publie aussi du contenu pour mon club privé. Ouais, c'est du contenu exclusif. Un petit peu les coulisses de toutes mes vidéos et de tout ce que je fais dans le milieu de la prise de parole. Voilà, donc Facebook, YouTube, Snapchat.
Eh ben écoute, on mettra dans l'article associé à cette interview, eh bien ces liens. Et puis ben
Ouais.
merci encore, un grand merci Ciel pour le temps que tu nous as accordé ce soir dans ton emploi du temps très rigoureux. Et puis
Merci
ben
à toi.
au plaisir de pouvoir rééchanger avec toi sur un interview ou sur un autre sujet qui peut aussi nous permettre de dévoiler ou parler de pensées qu'on oublie finalement de verbaliser des fois dans nos interventions.
Merci beaucoup, Ogier. C'était un réel plaisir de parler avec toi pendant quasiment cette heure de conversation et d'interview. C'était un réel plaisir de parler et de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet qui est passionnant. Voilà, j'espère que ça t'aura plu, auditeur, et que, eh bien, tu chercheras toi aussi à t'améliorer, devenir un meilleur orateur. Voilà. Allez. Ben, merci
Merci.
encore et je te souhaite une très bonne soirée.
Bonne suite de journée, Cyril. À bientôt.
Et à bientôt. Ciao, ciao.
Salut. C'est déjà la fin de cette interview. Merci à toi d'avoir pris le temps d'écouter cette interview jusqu'à maintenant, d'avoir finalement respecté et écouté Cyril Chambard dans ses propos, dans son explication. J'espère qu'elle t'a donné envie de prendre la parole en public en essayant de dompter ta personnalité et de devenir une meilleure version de toi-même. Merci encore, je te souhaite de passer une bonne suite de journée et je te dis à très vite pour un futur interview ou podcast. Bye bye.